Et Bezrat Hashem, je suppose que vous avez des cours tout au long de la journée concernant Yom HaAtzmaout. Donc nous aussi, Bezrat Hashem, nous allons nous associer au sujet, puisque c'est le sujet d'actualité. Nous avons une mitzvah d'étudier les choses qui sont dans notre actualité, pas seulement au niveau précis du temps, mais au niveau d'un temps beaucoup plus large, c'est-à-dire d'étudier notre époque. Shiva dvarim nivreu kodem shenivra olam. Sept choses furent créées avant la création du monde. C'est-à-dire, sept choses ont précédé le monde, la création que nous connaissons. L'une d'entre elles, c'est ce qui nous intéresse ici, Shmo shel Mashiach, c'est la dernière d'entre elles. Le nom du Messie, autrement dit, le nom en hébreu indique une direction. Shem, c'est exactement comme si on disait Sham. C'est-à-dire que le messianisme a été prévu dans le monde avant la création du monde. Les Lamedenu, donc ceci nous enseigne, Shekvar beyesodot habria, que depuis les fondements même de la création du monde, avant même la création du monde, le créateur du monde a déjà mis en place l'ordre nécessaire, les hatzmachat ageoula, pour faire pousser la délivrance. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que sept choses ont précédé le monde, en réalité rien ne peut précéder le monde, parce que le monde introduit avec lui une notion de temps. Sous-entendu, avant la création, le temps n'existait pas. Alors comment on peut dire avant? Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Alors lorsque les sages nous disent avant le monde, c'est pas dans un contexte de temps. C'est dans le contexte de l'idée. C'est-à-dire que la base, Todaraba, du monde, c'est le messianisme. Le messianisme est déjà placé à la base de la création du monde, avec tout ce que le messianisme comporte. Hamivne apnimi shel haolam, donc la forme intérieure du monde, veachukiyut shelo, et toutes les valeurs qui ont été placées, données, mises par Akadosh Baruch Hu dans ce monde, murcharim le geoula. Tout est prévu pour la geoula. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà dans l'idée avant même la création du monde. Et là, pour faire en sorte que les choses se réalisent, Mofiot Kama Drachim Shonot se place devant nous plusieurs manières pour faire en sorte que la réalisation de la rédemption du monde à travers Israël se passe. Geoula Nissit ou Geoula Tivit. D'une manière générale, il y a deux possibilités. Ou Dieu va utiliser la forme miraculeuse pour sauver le monde, ou bien il va utiliser des éléments naturels. Geoula beloz chuyot, ou geoula im chuyot. Sous une autre forme, on peut dire que nous pouvons avoir une rédemption qui dépend de nos mérites, ou bien une rédemption qui ne dépend peut-être pas de nos mérites. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a déjà prévu la rédemption du monde dans le monde. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, ça va se passer. Ve'ot kam avec kama ofanim. Là j'en ai donné deux manières. Mais en réalité, il peut y avoir une infinité de possibilités pour Akadosh Baruch Hu de sauver le monde qu'il a créé. Donc de sauver toute sa création, de la compléter, de la terminer, de la parfaire. Yotze, Shageula Hina Vadait. Donc, ce qui sort de ce qu'on vient de dire, d'après cette fameuse Gemara dans Eruvin 59, c'est qu'une chose est sûre, tout ce qui a été créé avant le monde, c'est-à-dire c'est la racine, c'est la source, c'est le vouloir, c'est le pourquoi du monde, parmi ces sept choses qui ont précédé le monde, le Mashiach était là. Une chose est sûre, c'est que le Mashiach viendra. Reste à savoir comment. D'accord ? Donc notre problème, c'est pas s'il viendra, s'il ne viendra pas, mais comment ? Par quel biais, par quel moyen ? Donc à derech elea eina brua, seulement le chemin, le cheminement, l'accès n'est pas encore clair à nos yeux. Rav Kook Melamed, le Rav Kook nous enseigne dans Igrot Areiya Aleph, Igeret, c'est des lettres, la lettre 112, à la page 142. Shemutal alenu lilmod et kol darkeha geulah efshariot. Le Rav Kook nous dit qu'il nous incombe d'étudier toutes les manières possibles qu'on peut en tant qu'homme arriver à comprendre comment Akadosh Baruch Hu va réaliser sa Geoula. Autrement dit, le Rav Kook nous dit, deviens spécialiste de la rédemption d'Israël. Il faut que tu saches tous les moyens possibles qu'Akadosh Baruch Hu peut utiliser, bien entendu avec ce que tu peux atteindre avec ton cerveau humain. Les Havina Neitev, le Rav dit qu'il faut les comprendre parfaitement, tous ces chemins, tous ces moyens. Les Hakir Sidrehem, connaître leur ordre, ou les Sakel Mehen Kolakushiot, et écarter au fur et à mesure que tu étudies l'une des manières, tout ce qui peut devenir un obstacle pour arriver à réaliser la rédemption d'Israël. Autrement dit, j'étudie tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu possède, en tout cas à mon niveau humain, ce que je peux comprendre, comment la Géoula va se réaliser. Et chaque fois que j'ai un problème, une question, il faut que je tourne, voir tous mes maîtres, voir tous les livres possibles et imaginables, pour écarter les problèmes qui peuvent se placer devant moi. Je ne comprends pas quelque chose, ça me semble illogique, ça me semble pas possible, eh bien j'essaie de clarifier pour que si un jour j'enseigne l'un de ces moyens qu'Akadosh Baruch Hu a pour faire venir la Géoula, et qu'un des élèves me pose une question qui contredit, qui contrarie tout ce que je viens de dire, que je ne sois pas bloqué, que je sache répondre, parce que j'ai déjà étudié le sujet avec tout ce qu'il y a autour. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça doit devenir en fait un métier dans l'étude de la Torah, de savoir enseigner, de savoir éclaircir comment Akadosh Baruch Hu peut faire venir la Geoula. Shemitorerot bahen biglal choser biru. Tout simplement, toutes les questions que nous avons en chemin, c'est pas que la Geoula elle-même elle a un problème, c'est que nous avons des problèmes de compréhension. Donc par une étude plus approfondie, il faut que je règle ces kushiot, ces problèmes, il faut que je répare tout ce qui est à réparer, il faut que je me prépare à répondre à toutes les questions possibles. Ma'amik, donc il faut que ce soit profond. Vezot kedesh she'im yagi azmana shel achat min adrachim. Et là il y a encore plus. Quelque chose de plus important. Car si un jour apparaît ce chemin-là, cette forme-là de Geoula, qu'Akadosh Baruch Hu a prévu, et moi je l'ai étudié, eh bien, lorsqu'elle va apparaître devant moi, je pourrai la reconnaître. Vous comprenez le problème? Si je n'ai pas étudié une forme de Geoula, lorsqu'elle apparaîtra, je ne pourrai pas la reconnaître parce que je ne la connais pas. C'est simple à comprendre. C'est-à-dire, tout sujet que j'ai déjà abordé, lorsque ce sujet apparaît à l'examen, mais je sais faire face. Mais si je n'ai pas étudié l'une des formes qu'Akadosh Baruch Hu a, encore une fois, je répète, à mon niveau humain, si je n'ai pas étudié ce cheminement-là, mais lorsqu'il apparaîtra, je risque de le rater complètement. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours. Beaucoup moins, Baruch Hashem, de moins en moins, mais il y a encore des personnes de notre peuple qui ne voient pas dans la création de l'État d'Israël, dans notre retour sur notre terre, une forme de Geoula. Pour eux, la Geoula, c'est autre chose. Ils ne sont pas prêts à comprendre que Dieu peut s'habiller dans cette forme-là. Parce qu'ils n'ont qu'un seul degré, un seul cheminement, une seule idée de ce que représente la Géoula. Si ça sort de cette catégorie, pour eux, ce n'est pas une Géoula. Autrement dit, ils ont limité à Kadosh Baruch Hu à leur compréhension. Mais si tu étudies toutes les formes possibles, eh bien, tu as plus de chances que lorsqu'une Géoula qui a dépassé, en fait, qui est sortie un petit peu du cheminement kasher, entre guillemets, tu pourras aussi comprendre que ça fait partie de la Géoula. Sinon, tout ce qui n'est pas très kasher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ça c'est sûrement pas la Géoula. De cette manière, on peut éliminer beaucoup de choses. Par exemple, le Mashiach lui-même. Pourquoi? D'où vient le Mashiach? De la relation d'un père avec sa fille. Lot, avec ses deux filles, lorsqu'ils ont quitté la ville de Sodom, mais c'est de là qu'a commencé à apparaître dans le monde la racine, la graine du roi Mashiach. Donc le roi Mashiach sort d'une histoire pas très cachère. Plus tard, Yehuda va aller voir une prostituée. Pour lui, c'est une prostituée. Pour nous, c'est Tamar. Mais lui, dans sa tête, dans son idée, c'est une prostituée. Est-ce que le Mashiach peut naître d'une relation telle que celle-ci? Chas v'shalom. La Torah vient te dit, tu vois, tu t'es trompé. Et je peux continuer le long de l'histoire. David Amelech, tous les frères pensent qu'il est bâtard. Que sa mère a trompé son père et qu'il sort d'une autre relation. Donc David Amelech est rejeté, mis à l'écart. Il va paître les moutons dans un petit coin tranquille. Et lorsque le prophète Shmuel vient pour choisir, parce que Dieu le dirige pour choisir le nouveau roi d'Israël, tout le monde se dit, ça y est, voilà, tous les enfants de sont là. Il n'y a plus d'autres. Et Shmuel leur dit, non, Akadosh Baruch Hu me fait signe que c'est ici, c'est dans cette famille, Monsieur Ishaï, son père, et toi tu me dis que tu n'as que ces enfants-là. Tu es sûr que tu n'as pas un enfant qui traîne quelque part? Ah bien sûr, monsieur le prophète, j'ai un enfant, mais bon, tu sais, à la histoire. C'est pas très sympathique, quoi. Ne me force pas à rentrer, faire du Lashon Hara, tu sais. C'est un petit rouquin, là-bas, il est dans les bois, dans la forêt, on l'a jeté exprès parce que, bon, parce que tu me forces, tu sais bien que ma femme m'a trompé avec un type, je ne sais pas qui c'est, il est sorti celui-là. Et le prophète dit à Ishaï, amène-le-moi quand même. Et lorsque David approche, dès qu'il rentre dans la pièce où se trouve le prophète, eh bien, l'huile qu'il avait dans son récipient monte. Le niveau de l'huile monte. C'était le signe attendu pour savoir qui était le roi, le futur roi d'Israël. Et donc le prophète dit, le voilà, c'est lui. Mais comment, tu es sûr? Il doit y avoir un problème. L'iPod de Dieu ne marche pas. Il y a un problème. Akadosh Baruch Hu s'est trompé d'ordinateur, il y a un bug. Et finalement, tout le monde reconnaît David comme étant non seulement le vrai fils, parce que sa mère ne l'a pas trompé, Chas v'shalom, n'a pas trompé son mari, mais en plus de ça, le futur roi d'Israël. Et vous pouvez continuer le long de l'histoire de la même manière. Aujourd'hui, dans les temps modernes, les mêmes personnes vont vous dire, mais l'État d'Israël n'a pas été fait par des gens qui sont des shomrim de mitzvot. L'État d'Israël, ce sont des profanateurs de Shabbat. Ce sont des gens qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Ça, c'est la Géoula. Réponse, oui. Problème que tu as, c'est que tu n'as pas étudié toutes les formes possibles qu'Akadosh Baruch Hu a pour faire amener sa Géoula. Et toi, tu t'es arrêté avec un système que tu as eu dans tes cours quand tu étais jeune. Et t'as l'impression que si c'est pas dans cette catégorie-là, eh ben ce n'est pas une Géoula. Il y a des gens qui me disent, comment tu peux dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaout? Alors que tous ces gens-là qui ont fait l'État, c'était des mécréants. Alors je leur réponds, plus mécréants que les gens qui sont sortis d'Égypte, que la Torah nous dit qu'elle était à 49 degrés d'impureté, ils étaient tous. Plus que ça. Alors on ne sait plus quoi répondre. Alors je lui dis, mais il faut arrêter de dire le Hallel le soir de Pessah. Pourquoi tu dis le Hallel le soir de Pessah et le jour de Pessah? Si tous les gens de la sortie d'Égypte c'étaient des mécréants à 49 degrés d'impureté, ne dis plus le Hallel à Pessah. Et tu peux continuer comme ça tout au long de ce cheminement. Ken?
On le dit, enfin, on le dit des fois quand j'ai des arguments comme ça, que oui, mais à l'époque, la prophétie d'un avis. La parole de Dieu était sur terre, on savait, pour David, il y avait la parole d'un avis.
On te dit qu'à cette époque, il y avait le tampon d'un prophète. Alors tu réponds, mon cher ami, que le tampon le plus fort, c'est la réalisation et la réussite dans la réalité de ce qui se passe. Ça veut dire que si Dieu ne voulait pas que le retour des enfants d'Israël réussisse, il aurait effacé toute cette Médina en 2-3 ans. Le fait même que ça continue, et que ça marche, et que ça s'améliore, et que tous les juifs du monde continuent à revenir, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu participe à cette histoire. Est-ce que tu as déjà vu un secteur de l'histoire où Dieu s'est retiré d'un coup? Ça veut dire Dieu se trouve dans toute l'histoire du peuple d'Israël, sauf en 1948, il dit non, là je m'en vais. Là j'arrête. Okay. Ça vous fait rire, mais c'est exactement pareil. C'est tellement ridicule que ça fait rire, vous avez raison. Vous pensez vraiment que Dieu est sorti se retirer de l'histoire seulement pour ça, parce que ça énerve les autres? Donc moralité. Lorsque cette geoula de la forme qui soit va apparaître, si j'ai étudié, eh bien je peux la déceler. Je peux la reconnaître. Je dis oui, on a étudié ça au Machon Meir. C'est l'une des possibilités. Donc je n'aurai aucun problème de remercier Dieu concernant cette geoula. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je remercie Dieu le jour de Yom HaAtzmaout? Tout simplement, je fais en sorte de dire à haute voix qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le processus. Donc je le remercie à lui. Ça veut dire que je l'intègre dans ce processus de rédemption d'Israël. Mais si je ne disais pas le Hallel, si je suis tellement ingrat au point de ne pas reconnaître que Dieu est dans cette histoire, mais je ne peux même pas dire merci. Donc je deviens fébrile. J'hésite. Et je commence à trouver des petites combines. Oui, peut-être le Hallel, sans bracha, petit Hallel, demi Hallel, j'en sais rien. Okay. Ça ne marche pas comme ça. Ou tu comprends le processus et tu es entier avec lui, ou tu ne dis rien. Vous connaissez la Gemara où Akadosh Baruch Hu voulait faire de Ézéchias, le roi de Judée, Mashiach. Vous l'avez sûrement étudié avant. Et parce qu'il n'a pas dit Hallel le jour de son indépendance à lui, c'est-à-dire le jour où il s'est levé le matin et qu'il a vu 185 000 soldats morts devant sa porte, miraculeusement, et qu'il n'a pas dit Hallel malgré tout, eh bien Midat Adin, dit la Gemara, s'est levé contre Akadosh Baruch Hu, lui a dit comment? David Ameler qui a écrit des livres entiers, des louanges, toute la ville a chanté devant toi, tu ne l'as pas fait Mashiach. Et lui qui est même pas capable de dire un remerciement, mais quelle ingratitude, tu vas le faire Mashiach. Et donc Akadosh Baruch Hu a repoussé. Autrement dit, ne peut pas être Mashiach celui qui ne sait pas reconnaître, celui qui ne sait pas dire merci, celui qui est ingrat. Donc la première qualité du Mashiach, c'est la gratitude. S'il est ingrat, ce n'est sûrement pas le Mashiach. Et si la Géoula vient dans un degré naturel, s'habillant dans la nature, c'est-à-dire dans un processus historique, politique, tel que nous avons dans notre monde aujourd'hui, Neda Keitzad Lishtalev, nous qui avons étudié ce sujet, cette forme-là aussi, eh bien on peut participer. Je peux rentrer dedans en disant à mes amis, oui, oui, ça aussi c'est une possibilité de Dieu. Pourquoi qui tu es toi? Tu vas le limiter? Comment il va faire sa Géoula? C'est à nous de diriger Dieu. Dieu, il a des moyens de faire les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas très cachères à nos yeux, mais il sait très bien ce qu'il fait. Donc j'ai une chance sur deux d'être associé à la rédemption d'Akadosh Baruch Hu, ou de refuser complètement et de sortir du film. Ça, ce n'est pas ma Géoula, c'est peut-être la Géoula des sionistes. Moi, je participe pas à cette Géoula. Shalom, je mets la chaise sur la table et je sors de la classe. Et s'il y a une Géoula qui va se passer d'une manière surnaturelle, eh bien, nous allons voir comment Akadosh Baruch Hu se dévoile et nous allons nous taire. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc celui, je conclue maintenant, qui n'étudie pas les différentes formes possibles de la Géoula, il peut facilement la rater lorsqu'elle va apparaître. Passer à côté, ne rien voir. Non seulement il ne verra rien, et en plus de ça, il ne pourra même pas dire merci, parce que merci de quoi? Je n'ai rien vu. Mais Choserda, tout ceci parce qu'il lui manque une connaissance de la chose, une étude de la chose, ou mais Choser Havana, donc il n'a pas étudié le sujet comme il faut l'étudier. Je vous dis donc, entre parenthèses, c'est le sujet à étudier. Et bien, Baruch Hashem, au Machon Meir, c'est le sujet étudié. C'est-à-dire que l'essence même, même quand vous étudiez n'importe quel sugya ailleurs, l'essence de votre étude est imprégnée du messianisme d'Israël, de notre retour sur terre. Donc toute la vision de la Torah, elle prend une autre couleur. Elle a la couleur du renouveau du peuple d'Israël sur sa terre. Car les choses changent. Si tu ne vois pas le changement dans l'air, tu as un problème. Tu peux être un spécialiste de la cachérisation du foie. Et tu vas nous faire un discours extraordinaire quand on va te poser ce morceau de viande devant toi. Tu vas dire, alors, mesdames et messieurs, regardez comment on cachérise le foie. Le foie, il a, tu vas parler 2 heures du foie. Et à la fin, quelqu'un te dit, monsieur, mais c'est une rate. Vous avez compris? Ça veut dire que tu peux être spécialiste dans tout ce que tu connais de la Torah, mais si tu n'es pas spécialiste dans la base même, c'est-à-dire dans la réalité qui se passe devant toi, tu as tout faux. Tu peux me parler de ce que tu veux, mais quand je descends dans la rue, je vois une ville, je vois des soldats, je vois des affaires, je vois des businessmen, je vois une économie florissante, je vois un pays qui vit. Et toi, tu es dans ton livre et tu me dis des halakhot. Vous savez, du temps de Rabbi Akiva, c'est une blague rabbinique. Du temps de Rabbi Akiva lui-même était le plus grand de la génération. Il aurait pu se nommer lui-même Mashiach. Qui l'a nommé Mashiach? Bar Kokhba. Bar Kokhba, pour rentrer dans son unité, c'était un ramatkal de l'armée. À l'époque, il fallait que chaque soldat se coupe le pouce. Sinon, tu rentrais pas dans sa Yechida Kravit. Dans son unité combattante. Alors les Chachamim ont dit, écoute, pas exagéré quand même. Ils ont dit, bon, allez, d'accord. Eh bien, avec le cheval, quand il va être avec son cheval, chaque soldat devra arracher un cèdre, un arbre. Okay? Imaginez-vous, la puissance de ces soldats. Alors les Chachamim disent, mais pourquoi il voulait couper le pouce? Il dit, parce qu'il en a marre de ceux qui font toute la journée comme ça. Okay? C'était une blague. Okay?
Je crois que qu'on ne puisse pas comprendre le processus de la Géoula, mais le final, ce sera le même. Donc on ne comprend pas maintenant, mais on comprendra plus tard.
Non, c'est pas pareil. Si tu es passif dans ta Géoula, ou tu deviens un acteur et un associé, ça change complètement. Akadosh Baruch Hu ne nous fait pas un film, tu n'es pas au cinéma. La Géoula, ce n'est pas un film qu'Akadosh Baruch Hu projette. Toi, c'est l'acteur. Et moi, je suis acteur. Donc si tu n'es pas au courant, tu ne vas même pas jouer dans le film. Encore une fois, ceux qui comprennent le processus et ceux qui sont en dehors de toute cette histoire et qui refusent totalement et qui ne reconnaissent pas la date où les choses ont commencé, il y a un problème.
Mais le final.
Encore une fois, le final, ce n'est pas ce qui compte. Non, non. Dans le judaïsme, le cheminement est pas moins important que le final. Tu crois qu'on arrive et la fin justifie les moyens ? Non, dans le judaïsme, ça ne marche pas comme ça. Si pour être un gadol dans la Torah, je dois éliminer tous les gens, j'ai un pétard, je peux devenir le gadol de la Torah. Tu comprends ? Ça ne marche pas comme ça. Si pour être grand, je dois rabaisser les gens autour de moi, ça ne marche pas comme ça. Si pour me glorifier, je dis que tu as tort, ça ne marche pas comme ça. Alors, prenons des références et étudions. C'est bien ? Quel ? Le chemin est important. Parce que justement, si je n'ai pas étudié cette manière aussi, moi je ne vais pas fixer à Dieu comment faire les choses, mais je dois étudier les différentes manières, les différentes possibilités. Lui, il choisira celle qu'il veut. Mais il m'a donné quand même des clés. Et on va très vite voir les clés que Dieu nous a données. Il ne nous a pas laissé dans le vide. Il nous a donné quand même des ouvertures. Donc je ne vais pas le forcer à faire la Géoula comme moi je l'entends, mais je dois quand même étudier toutes les possibilités qui sont à ma disposition. Quel ?
Les personnes qui ont fait la Géoula en
quel ?
Elles ont fait des trucs qui dépassent...
Qui dépassent leur entendement.
Qui dépassent le vide. C'est-à-dire des choses qui sont dites pour la Torah.
Quel ? Et qui malgré cela... font partie de la rédemption d'Israël. C'est ça tout le secret de Dieu. C'est qu'on peut faire des choses apparemment contre la Torah et qui dans le global vont s'inscrire dans le processus. Qui peuvent menacer à un moment donné la transmission de la Torah. Mais au final, elles s'inscrivent dans tout le processus. On ne comprend pas ça. Il y a des guerres dans le peuple d'Israël pour arriver à la Géoula. Il y a des morts dans les guerres malheureusement. Est-ce que ça... arrête le processus? Non. Le processus s'habille dans ces événements-là, avec toutes ces guerres-là, et malheureusement avec tous ces soldats qui partent. Et pourtant, ça fait partie de la Géoula. Je n'ai pas le droit à un instant de penser autrement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tu peux être un acteur sans comprendre, et les choses nous dépassent bien souvent. C'est pour ça que je dis, restons humbles, ne dirigeons pas à la place d'Akadosh Baruch Hu comment lui doit faire les choses, mais essayons d'étudier. Kamuvan, she'en anu martivim l'Hashem derech kazo o acheret. Donc on n'est pas là pour dicter à Akadosh Baruch Hu une manière ou une autre. Keivan shebesofo shel davar hu yitbarach ya'aseh et hatov be'enav. Parce que de toute façon, Akadosh Baruch Hu à la fin fera ce qui lui semble bon. Veigalenu kefiretsono, et il m'a nous délivré selon sa volonté divine. Mai danicha lelekucha berichu li'evad. Une expression donc en araméen. Ce qu'Akadosh Baruch Hu aura choisi, c'est ce qu'il y aura. Ubecholzot, et malgré tout, mechuyavim anu letzapot le'yeshua. Malgré ça, nous avons une mitzvah. Un ordre divin, de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire les tzapotes ? D'attendre ? D'entrevoir, litzpot en hébreu c'est comme si voir avec des jumelles, donc les tzapotes c'est attendre, mais en même temps attendre avec des jumelles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la radio, j'écoute les informations, J'essaie de comprendre comment Akadosh Baruch Hu, à travers ces informations, est en train de faire acheminer sa Géoula. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour la Géoula, il faut que j'étudie pour comprendre. D'ailleurs, c'est l'une des questions qui est posée à la Neshama lorsqu'elle arrive devant Akadosh Baruch Hu. Okay? Il y a 5 questions. L'une d'entre elles, est-ce que tu as travaillé dans ce sens-là dans ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de voir, d'étudier les différentes manières que j'avais, moi, à Kadosh Baruch Hu, pour faire amener cette Géoula dans le monde? Ou est-ce que tu t'es dit, moi j'en ai rien à faire, de toute façon à la fin ça va être. Alors j'attends. Non. Et ça c'est dans la Gemara Shabbat à la page 31. D'accord? Dans la Gemara Shabbat, nous disent les Chachamim, attention, c'est l'une des questions qu'on va te poser. Qu'as-tu fait pour ça? Qu'as-tu fait pour étudier les différents cheminements que possède Akadosh Baruch Hu pour faire amener sa Géoula dans le monde? Ok.
C'est vrai.
Tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est pour acheminer les enfants d'Israël à revenir vers leur terre. Tu as un doute? Tout se passe pour cela. Uniquement pour cela. Donc ça veut dire que la Géoula, c'est avant tout le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et ce retour se fait petit à petit, et à des moments donnés, ça se fait avec de grands affluents. Quel? Il y a plein de problèmes, et Akadosh Baruch Hu sait gérer tous les problèmes, et en même temps que tous ces problèmes, il donne manger à la fourmi qui se trouve dans ma souka maintenant. Regarde la puissance divine. Tu as compris? Quel? Et il y en a des milliards comme ça. Okay.
Alors pourquoi les goyim, au lieu de, normalement, ils devraient voir que c'est un miracle, pourquoi ils essaient de boycotter cette chose-là?
Et ben au contraire.
Et pourquoi ils sont contre nous?
Ta question elle est très bonne, mais ta conclusion n'est pas bonne. Effectivement, ils voient, d'ailleurs les goyim voient mieux que nous. Les goyim voient toujours avant nous ce qui se passe chez nous. Vous le dites, « Az yomru ha-goyim » C'est les goïms qui nous disent, entre eux ils se disent, oh là là, quel peuple. Apparemment Dieu est avec eux, c'est pas possible autrement. Et nous, on s'associe après, le verset continue, nous on rentre maintenant et on dit, écoute les goïms ce qu'ils disent. Ils disent apparemment que Dieu est avec nous. Punaise, j'ai même pas pensé à ça, tu penses toi aussi? Aïnous Mechim. D'un coup, ça me réjouit. Aïnous Mechim, c'est la suite du verset. Igdil Hashem la asot imele, c'est le goyim qui le disent. Igdil Hashem la asot imanu, c'est nous qui le disons. Aïnous Mechim. Punaise, je n'ai même pas pensé à ça, mais c'est le kiff. Alors, la question, si les goyims voient justement que tout ce processus est un processus divin, pourquoi ils se mettent contre? Pourquoi ils nous mettent des bâtons dans les roues? Mais tout simplement parce que ça fait tomber toutes les religions du monde. C'est leur antithèse. Lorsque Herzl a demandé au pape de l'époque de l'aider à créer l'État d'Israël, le pape lui a dit « Tu me demandes de faire quelque chose qui est concrètement l'inverse du christianisme. » Parce que le jour où les juifs ont un État, ça veut dire que le christianisme avait tort. Et oui, parce que dans le christianisme, il est écrit que le peuple d'Israël a été maudit par Dieu. Donc il ne pourra jamais plus revenir sur sa terre. Or, maintenant, le pape, il a eu une soupape, un bout de bois dans l'œil, il y a l'État d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Alors ils se disent, bon, bah alors, écoute, on est mal quand même, hein? On est mal. Oui, mais c'est pas Jérusalem. Nous, on parlait de Jérusalem. Pas de problème, 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim. Deux bois dans les deux yeux. Oh. Ah non, on n'a pas dit seulement l'État Jérusalem. Le Beth Amikdash, le temple, il parle toujours du temple. Pas de problème, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, le troisième temple Bezrat Hashem. Ça va être comme ça, c'est tout. Ça veut dire qu'on est en train de contrarier en réalité tout le christianisme. Okay. Il y en a qui pensent différemment que... Encore une fois, je parle d'une manière globale. Okay. On continue le texte. La différence primordiale entre la première Géoula, celle de la sortie d'Égypte, et la dernière, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est tout simplement que le miracle de la sortie d'Égypte s'est fait par saut, c'est-à-dire on a sauté des étapes, autrement dit c'était miraculeux, alors que la Géoula de maintenant, c'est une Géoula qui n'est pas miraculeuse dans le sens hors nature, elle s'habille, comme j'ai dit, dans les processus naturels, dans la politique des nations du monde, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors regardez, je vous ai apporté ici, je vous ai amené ici des références pour renforcer ce que je viens de dire. Concernant la sortie d'Égypte, regardez ce qui est écrit dans Dvarim 16. Qui bechipazon yatzatam eretz mitzrayim leman tizkor et yom tzetcha eretz mitzrayim kol yemei chayecha. Car tu es sorti d'Égypte. Qu'est-ce que c'est bechipazon? Très rapidement. Chipazon en hébreu, ça veut dire il n'y a pas de temps. Donc la sortie d'Égypte était en dehors du temps. Comment est-ce possible de sortir du temps? C'est-à-dire tu fais tout très rapidement, tu n'as pas le temps de rien. C'est ça la sortie d'Égypte. On n'a pas le temps de faire monter du pain, on n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça, tout de suite on sort. Autrement dit, la sortie d'Égypte ne dépend pas de mon action. C'est Dieu qui est en train de diriger tout, il me dit, arrête. Tout ce que tu as fait maintenant, bloque, stop, allez viens, je te fais sortir maintenant. Je n'ai pas le temps de t'attendre. D'accord? Alors que, Bahanavi, dans la Géoula actuelle, le prophète Isaïe, au chapitre 52, verset 12, nous dit « Kilo bechipazon tetseu » La deuxième fois, vous n'allez pas sortir rapidement. « Velo bimnusa telechun » Vous n'allez pas courir dans les rues, comme vous avez fait lors de la sortie d'Égypte. « Ki olech lifnechem Hashem ume asifrem elo Israël » Car Dieu marche devant vous et il va vous rassembler. Écoutez bien le mot. Dieu va vous rassembler petit à petit. Holech, c'est une marche, c'est une démarche graduelle où les choses vont se passer naturellement et par, mais à Sifrem, il va vous rassembler. Comment on appelle les premières installations en Eretz Israël? Kibbutzim. Qu'est-ce que c'est Kibbutzim? Rassemblement. Hine yaskil avdi, yarum venissa begava meot. C'est-à-dire que mes enfants et mon Mashiach, Yaskil, qu'est-ce que ça veut dire Yaskil? Il va avoir une forme d'intelligence. Yarum, qu'est-ce que c'est Yarum? Il va monter. Venissa, il va encore plus monter. Vegava, il va encore plus monter. Meod, encore plus. Que veut dire le prophète ici? Qu'il y a ici des étapes, une après l'autre, à franchir et à grandir. Autrement dit, la Géoula va se faire d'une manière très, très, très naturelle, lentement, mais sûrement. Les choses vont apparaître habillées dans des événements complètement de ce monde. Les fils, Tofia Géoula, Achrona, Beta Alichim, Adragatim, Vetrilata, Yerushat, Eretz Israël. Donc, la Géoula dernière, celle dans laquelle nous sommes, va apparaître d'une manière donc graduelle. Et le premier degré, c'est conquérir la terre et s'y installer. Donc, faire son alia. Mais pas seulement faire son alia. Faire son alia et établir une infrastructure qui fait en sorte que le peuple d'Israël domine cet endroit. Comment ça s'appelle? Un état. Tout simplement. En hébreu, Médina. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, si tu reviens en Eretz Israël, mais tu n'as pas de souveraineté, eh bien tu n'as pas encore accompli la mitzvah de la Torah. Donc la mitzvah de la Torah, c'est de devenir souverain juif sur cette terre. Donc la mitzvah de la Torah, c'est de créer un état, tout simplement. Il y a fait. Donc on a réalisé une mitzvah, la plus grande des mitzvot, pour commencer. Hein? Bevadai, c'est le peuple tout entier, la nation tout entière, qui s'est réveillée à cela. Okay. Il y a fait. Le mot Médina, ce n'est pas la même chose que Eretz. Eretz ne veut pas dire souveraineté. Eretz veut dire la terre d'Israël. C'est-à-dire que si je viens habiter la terre d'Israël, mais que je ne suis pas souverain, il y a un autre roi ici, est-ce que j'applique la mitzvah de m'installer en Israël, oui ou non? Tu dis comme ça, au hasard? Tu habites en Israël, mais tu ne réalises pas la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël.
Elle est appliquée
encore moins que partiellement.
Il faut la travailler.
Non seulement ça, si tu la travailles pendant cette époque-là, tu es passible de mort.
Hein?
Ouais. Okay? Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de sa caverne, okay, il a vu quelqu'un en train de labourer la terre. C'était où? En Israël. Pourquoi il l'a tué? Non, c'est pas vrai. Pourquoi il l'a tué? Parce que qui était souverain à cette époque? Les Romains. Donc il n'avait pas le droit de labourer à cette époque-là. Comprenez? Il était tellement nationaliste qu'il n'a pas supporté ça. David Amelech, le roi David. Et je vais te montrer comment c'est plus grave encore. Le roi David dit dans Tehilim, « Ki gershune ayom istaper benachalat Hashem. » Aujourd'hui, on m'a renvoyé de la terre d'Israël. Où est-ce qu'on l'a envoyé? Il est sorti de Jérusalem. Non, il est allé à Kiryat Gat. Kiryat Gat, c'est pas loin d'Ashdod. Donc il est sorti d'ici quelques kilomètres. Okay? 20-30 kilomètres, il est arrivé à Kiryat Gat. Et qu'est-ce qu'il dit, Rav David? Okay? David Ameler, notre Rav. Rav David nous dit, Ki gershune yom, on m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël. Be'emorli, alors ce qui est plus grave, c'est maintenant là, total. On m'a dit, en faisant ça, en me renvoyant, Lech avod Elohim acherim, va servir d'autres dieux. Autrement dit, David dit de lui-même, j'ai fait de la avoda zara dans ma vie. David Amelech, il a fait de la avoda zara dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de Jérusalem et il est allé dans un endroit où il y avait un autre roi souverain sur la terre d'Israël, dans les frontières de la terre d'Israël. Et donc c'est comme s'il était sorti d'Eretz Israël pour vivre ailleurs. Et comme la Gemara dit que tous ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël font de la Avodah Zara, eh bien David dit de lui-même, je ne suis pas sorti du lot. C'est de la Avodah Zara. David Ameler. Vous comprenez? Avodah Zara, ce n'est pas se mettre une petite statuette et commencer à lui faire comme ça. Avodah Zara, c'est sortir de son contexte. Et physiquement et mentalement. C'est-à-dire sortir de sa terre, c'est de la Avodah Zara. C'est du Chilul Hashem.
Okay?
Et cultiver en plus en dehors, ou construire une maison en dehors, vous savez que c'est une interdiction formelle. Même si c'est en Israël et qu'on n'est pas maître. Ça s'appelle la même chose. C'est pour ça que même en Eretz Israël, lorsqu'il n'y a pas de royaume juif, de même Shala aujourd'hui, il y a marqué que celui qui voit une contrée de Judée dans sa destruction, dans un état de destruction, il doit déchirer ses vêtements, comme pour un mort, en guise de deuil. Rashi sur place, il dit, c'est pas qu'elle est détruite, ça peut être magnifique avec des palmiers et tout. Mais c'est pas de domination juive. C'est-à-dire, si tu es en Eretz Israël, et un autre peuple domine cet endroit, même s'il est magnifique dans les frontières d'Eretz Israël, tu dois te déchirer les vêtements, c'est un deuil. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre domine ta terre et tu n'as pas appliqué la mitzvah de conquérir la terre. Je reviens. Un Ramban Masbir, donc le Ramban explique, Beosafotav le Sefer Mitzvot, la Rambam, Mitzvat Asse Dalet, Mitzvat Asse 4, le Rambam écrit toutes les mitzvot, et Ramban Nachmanide, donc pas Maïmonide, a rajouté des écrits sur le Rambam Maïmonide. Et il dit, nous avons l'ordre de conquérir la terre d'Israël. Velo na'azva beyad zulatenu min ha'umot, nous n'avons pas le droit de la laisser sous domination étrangère que nous-mêmes. Ramban, le grand Ramban, le dernier des grands kabbalistes. Les fidvara, d'après ses paroles, kayemet mitzvah de oraita la rechet et eretz Israël. Il y a donc, d'après ce qu'il vient de dire, une mitzvah de la Torah de conquérir la terre d'Israël, ou le ha'amit shilton am Israël, et de d'ériger sur cette terre un gouvernement, une structure de souveraineté. Alors à ta question, Eretz Israël, c'est l'endroit. Mais la souveraineté, ça s'appelle Medina d'Israël. Vezoy agdarat Medina. Donc c'est ça la définition simple du mot Medina. C'est pas un mot mal élevé, Medina. Klomar, les fils de Yesh mitzvah mina Torah le hakim Medina avour am Israël. Nous avons une mitzvah, donc, de créer un état pour le peuple d'Israël. Ukshadavar achen kara, behe beiyar tashach. Et quand la chose s'est réalisée, Baruch Hashem, le 5 du mois de Iyar, 5708, ça veut dire en 1948, Am Israël qui aimait ta mitzvah agdola azot. Donc, Am Israël a réalisé cette grande mitzvah de la Torah. Vekechol mitzvah, yesh beze inyan shel kdusha. Et comme toute mitzvah, il y a une sainteté dans cette mitzvah. Pourquoi je sais qu'une mitzvah égale sainteté? Parce qu'à chaque fois que tu dis mitzvah, tu dis kideshanu. Kideshanu be mitzvotav. Ça veut dire à chaque fois que je réalise une mitzvah, il y a une sainteté, il y a Kadosh Baruch Hu qui circule dans cette mitzvah. Asher kideshanu be mitzvotav. Et donc si je dis Asher kideshanu be mitzvotav, eh bien quand j'ai créé l'état d'Israël, Yom Ha'atzmaut malek dusha. Yom Ha'atzmaut est rempli de sainteté divine. Comme les paroles du Rav Kook qui vont maintenant renforcer ce que je viens de dire dans Orot à la page 160. Regardez ce que dit le Rav Kook. Medinat Israël hi yesod kise Hashem ba'olam. Medinat Israël, pas Eretz Israël. Okay? Bien entendu, c'est dans Eretz Israël. Okay? La différence, c'est que Medina égale une structure de domination, alors que Eretz est une place. Donc dans la place qui s'appelle Eretz Israël, on doit mettre en place une infrastructure de souveraineté, et les deux ensemble, Medina dans Eretz, dit le Rav Kook, ça s'appelle Yesod Kise Hashem Ba'olam, le fondement même du trône céleste sur terre. Est-ce que vous avez une plus grande définition de Medina d'Israël? Yesod qui sait Hashem Baolam. Le fondement même, la base même de tout le désir d'Akadosh Baruch Hu de créer ce monde. C'est-à-dire que quand le jour de Hebe Iyar est arrivé, Akadosh Baruch Hu, il a poussé un hurlement de bonheur. En se disant, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, je n'avais pas où m'installer. À partir de maintenant, mon trône est en train de commencer à se dévoiler sur terre. C'est ça ce que dit le Rav, pas moins que ça. Jusqu'à maintenant, j'étais dans l'exil. Jusqu'à maintenant, tout le monde me bafouait à travers les enfants d'Israël. Jusqu'à maintenant, on me brûlait dans les fours de Auschwitz avec les enfants d'Israël. À partir de maintenant, mon trône est en train de s'ériger dans le monde. Et moi, le petit bonhomme d'aujourd'hui, je ne vais pas dire un remerciement à Kadosh Baruch Hu ce jour-là. Mais quelle ingratitude! Ton arrière-grand-père a pleuré pendant 2000 ans pour avoir cet état. S'il se levait maintenant, il te voyait le jour de Yom Ha'atzmaut ne pas fêter cette fête avec ton peuple. Il te fait un 360 degrés en te donnant une gifle. Tu n'as pas honte, mon fils? Le fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, a mis une couche sur ce que dit son père. Anu shayachim le Medinat Israël. Nous appartenons à Medinat Israël. Mitoch kdushata ha'elohit. Parce qu'elle a une sainteté divine. Mitoch havana shei ma'aseh shamayim. Parce que nous comprenons que c'est Dieu qui a fait tout ça. Ma'aseh kodesh. C'est de la sainteté divine, pas plus, pas ni moins. Bishvilenu chilul medinat Israël, dit le Rav, pour nous, profaner medinat Israël ou chilul Hashem, c'est profaner Dieu. Regardez les paroles du Rav. Kasher Israël nimtzaim bematzav shel tzibur u'mamlacha, lorsqu'Israël redevient souverain sur sa terre, mofia kvod Hashem ba'olam, alors là, le kavod, l'orgueil de Dieu. Dieu a un poids. D'où vient le mot kavod en hébreu? Kaved. Tu donnes un poids à Dieu dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de poids que jamais. Vous vous rendez compte de ça quand même? Il y a 65 ans, on rasait les murs, non? Aujourd'hui, on a un poids. Aujourd'hui, on fait peur. Aujourd'hui, on impressionne. Aujourd'hui, tout le monde parle de nous parce qu'on ne sait pas trop comment nous manger. On est comme un os au milieu de tout le monde, là. Tant qu'on était des juifs malheureux, c'était sympa, c'était bien. Les goyim adorent nous voir en grillade. Là, ils ont un petit peu de pitié pour nous. Ils adorent nous voir comme une petite chèvre. Car eux sont des loups. Seulement aujourd'hui, la chèvre, elle a un M16. Vous avez déjà vu la chèvre au M16? C'est un film. Ken? Tzarich le'argish chilul medinat Israël ou chilul klal Israël. Donc quand on profane medinat Israël, on profane Dieu. Chilul la Torah, on profane la Torah. Vechilul Hashem, on profane le nom d'Hashem. Vite. Remez l'ekdushat yom ha'atzmaut mofia b'shulchan aruch. Dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo nous donne une clé sur Yom HaAtzmaut, sans savoir. Comment ça? Or HaChaim, Siman, Taf, Kaf, Het. Vous ouvrez le Or HaChaim au Siman 428. Petit paragraphe, Gimel. Dit Rabbi Yosef Karo. Siman le kviat hamoadim. Comment je fais pour fixer les fêtes dans l'année? Eh bien, je prends deux alphabets inversés. Je prends le aleph, lui correspond un taf. La première lettre, la deuxième lettre, la dernière lettre. Vous avez compris? Regardez bien. At, donc aleph taf. Bash, qu'est-ce que c'est bash? Betchin. Gar, au guillemets correspond resh, et ainsi de suite. Perouche. Explication de Shulchan Aruch. Le Yom Aleph, donc je reprends le Aleph, je vous l'ai mis en gras. C'est-à-dire le premier jour de Pessah correspond Taf. Qu'est-ce que c'est Taf? Tisha B'Av. Donc Aleph de Pessah va tomber le même jour que Tisha B'Av. C'est-à-dire si tu veux savoir quand Tisha B'Av va tomber cette année, ben tu regardes quand Pessah est tombé cette année. Premier jour de Pessah, c'était Shabbat, donc vendredi soir. Donc Tisha B'Av va être Shabbat, donc il va devoir être reporté. Ok? Deuxième jour de Pessah, Bet, à quoi correspond un Shin? Donc le deuxième jour de Pessah, dimanche, Shavuot. Donc Shavuot va tomber un dimanche. Shin, Shavuot. At, Bash. Troisième couple, Gar. Qu'est-ce que c'est Gar? Troisième jour, Gimel, de Pessah, c'était un lundi. R. C'est quoi R? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah va tomber un lundi. Vous avez compris? C'est facile. Et ainsi de suite. Sauf que le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, nous donne toutes les dates et il s'arrête au septième jour de Pessah. Il donne pas la référence du septième jour de Pessah. Incroyable. Hein? Si, il y a Hanouka. Ok? Ça veut dire que dans tout ce compte-là, le Rav s'arrête au sixième jour de Pessah. Le septième jour, Slicha. Or, la lettre 7, c'est quoi? Zayn. À quoi correspond, d'après cet alphabet inversé? Ayn. Bizarre. Vient le Rav Amram Abourbia, en haut à gauche. C'est les entraînements de Tzahal pour le Yom HaAtzmaut. Baruch Hashem. La fierté d'Israël. Regardez. Revenons, on va terminer le cours. Vient le Rav nous dit, ou beyamenu, à gauche, en haut à gauche, ou beyamenu zachinu la da'at ha-simana acharon. De nos jours, nous avons terminé le dernier signe, parce que Rabbi Yosef Karo l'a laissé ouvert. Pourquoi? Il n'y avait aucune fête qui commence par Aïn. Extraordinaire quand même. Chez Yom Shvi Shel Pesach, et le Rav, donc, qui est un grand kabbaliste, nous dit, le septième jour de Pesach, tu feras le compte, c'est toujours le même jour que Yom Ha'atzmaut. Zayin, donc Ayin. Ha'atzmaut. Rav Tzvi Yehuda mitbate b'charifut. Le Rav Tzvi Yehuda maintenant va mettre une gifle grave à ceux mi she'enam roim b'yom ha'atzmaut et yad Hashem ha'mekademet b'ta'alichim anakim et gelot Yisrael et gelot ha'olam. Celui qui n'arrive pas à comprendre le jour de Yom Ha'atzmaut comme il faut, regardez ce que dit le Rav à ce sujet. Kol Hashem ha'mitalech l'eruach hayom. HaKadosh Baruch Hu est en train de marcher déjà à la chaleur du jour. Qu'est-ce que veut dire le Rav ici? D'ailleurs, d'où est pris ce verset? De Bereshit. Quand Adam Arishon a fauté, HaKadosh Baruch Hu est descendu dans le jardin d'Éden. Et Adam Arishon, quand il a entendu Dieu, il s'est caché dans l'arbre. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes déjà sorti du cours? Donc, lorsque Adam Arishon, il a marqué le même verset. Donc ici, dit le Rav, HaKadosh Baruch Hu est en train de marcher en plein milieu du jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement dévoilé qu'il est là. Yeshno chet min ha-chataim asher alem gomrim et avidui. Dit le Rav, il y a une faute qu'on dit quand on dit chatati aviti bashadni tatatatatatanachon. À la fin, on dit dans Yom Kippourim al chet shechatanu lefanecha betimhon levav. Je te demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour la faute d'avoir douté et d'avoir fait comme ça. C'est ça l'expression. Le Rav Kook dit, j'ai jamais compris cette halakha. J'ai jamais compris ce passage dans le Tachanoun. Quand est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai jamais fait cette expression, moi. Dit le Rav, Oy le ototimhon, malheur à ceux qui poussent ce cri-là. Asher mana mechelek me'amenu, parce qu'il a causé à une partie de notre peuple shomrei mitzvot, des gens qui observent les mitzvot, les fitumam. Les fitumam, ça veut dire à leur dire, ce sont des shomrei mitzvot. D'après ce qu'ils disent. Milirot be'akamat medinat Israël amiuchet zalpaim shana et reshit tzmichat geulotenu. Ils ne voient pas en ce jour du 5 Iyar la rédemption d'Israël. Et quand tu leur dis Yom Ha'atzmaut, qu'est-ce qu'ils te disent? Il dit maintenant je comprends ce cri. C'est sur ça qu'il faut demander pardon à Kadosh Baruch Hu dans le Tachanoun. Libi dit mon cœur souffre quand je vois des gens comme ça. Me'ay, mes entrailles, à la chenou bet Israël, concernant mes frères, les enfants d'Israël, asher nafal alem tzilo shel oto safek, qui doutent tout simplement de la Geoula d'Israël du jour de Yom Ha'atzmaut. Ou mes ma'anim lachgog stimchat geulat ha'am ha'Torah ve'aretz. Ils refusent d'étudier et de se réjouir en ce jour-là de la Torah et de la terre. Et du peuple d'Israël, bien entendu. Je termine. Vous savez que deux des élèves du Gaon de Vilna se sont convertis au christianisme. Ces élèves sont venus en Eretz Israël et deux d'entre eux sont restés parce qu'ils ont trouvé une référence dans le Zohar qui donnait une date du messianisme qui, à leur sens, ne s'est pas réalisée et donc ils se sont convertis. Un des élèves qui est arrivé en Eretz Israël leur a envoyé une lettre à ces deux-là en leur disant « Mais vous n'avez rien compris au cours de notre Rav, le Gaon de Vilna. » Le Gaon de Vilna nous dit que toute la Géoula se trouve dans le mot « Adam ». Adam, c'est trois lettres. Aleph, Dalet, Mem. Comment, explique cet élève, eh bien, la distance qui sépare Aleph de Dalet, ça va être la même distance qui sépare le Dalet du Mem. Eh bien, Aleph, c'est Adam, c'est le premier homme. Dalet, c'est David, le roi David. Et Mem, c'est Mashiach. Donc, dit, c'est facile, l'élève à ses deux copains. Quand est-ce qu'est né David Amelech? À quelle date est né David Amelech depuis la création du monde? On le sait. En 2854. Donc si je sais la distance de temps entre Adam Arishon et le roi David, je n'ai qu'à multiplier par deux. Donc 2854 multiplié par deux, ça fait combien? 5708. dit le Gaon de Vilna, en 5708 commencera la Géoula, c'est-à-dire en 1948. 200 ans avant Yom HaAtzmaout, le Gaon de Vilna a donné à ses élèves déjà la date. Chag Sameach.